La semaine passée, on a entendu plusieurs jeunes partager un petit peu de leur vie, que ce soit ceux qui faisaient la louange. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà avant, mais qu'ils ont découvert pendant le week-end de Pentecôte, qu'ils étaient tout d'un coup toute une équipe de l'Église à jouer des instruments. Et puis, ils avaient été encouragés à prendre leurs instruments, à les employer et tout ça. Et ça a motivé vraiment. Nemo est super motivé de mettre une équipe en marche et tout ça. Et c'était vraiment chouette d'être inspiré par eux, d'être encouragé aussi par cette fougue qu'ils ont. Et puis ensuite, il y a eu le témoignage d'Élisée et de Noémie sur le voyage au Sénégal. Et j'espère que ça vous donne un tout petit peu le ton de ces prochains cultes où on aimerait vraiment pouvoir parler d'histoire, de caractère, de personnes qui nous inspirent, autant dans notre marche dans la foi que dans notre relation avec Dieu. Et aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'avoir les Gédéons avec nous. Donc, ça sera un message raccourci. Et puis ensuite, on leur laissera la place pour partager aussi des histoires qui vont nous inspirer, j'espère. Et puis, surtout sur la propagation de la parole de Dieu, de l'Évangile, ici en Suisse, mais aussi dans le monde. Donc, voilà, c'est toute une série de cultes. Alors, on a beaucoup d'orateurs qui vont venir, qui, voilà, vont se caler plus ou moins sur ce thème. Ils sont pas obligés, on verra un petit peu ce qui vient. Voilà, quelques photos pour commencer, parce que c'est des personnes qui m'ont inspiré, moi, dans le thème de la parole de Dieu. Ça, c'est quand on était en Arménie, avec Simone, au début de l'année. Et qu'on a rencontré ces femmes qui ont presque toutes, toutes des enfants handicapés, qui sont parquées dans des containers un petit peu en tant que famille. Souvent les hommes sont loin, soit ils les ont délaissés, soit ils travaillent à l'étranger pour venir à leurs besoins. Mais des femmes chez lesquelles j'ai découvert une faim, une soif de la parole de Dieu. On ne pouvait pas avancer tant qu'elles n'avaient pas trouvé là-dedans où c'était. Et elles ne connaissaient pas grand-chose. D'accord? Mais il fallait attendre, il fallait les aider. Et là, on voit sur la photo de gauche une fille qui aide à sa maman à trouver l'endroit qu'on allait lire, qu'on allait méditer et tout ça. Et de l'autre côté, ces deux femmes, il y avait une joie, il y avait une faim, il y avait une soif chez ces personnes pour ce livre. Et quelque chose juste de dingue, quoi, qui rafraîchit parce qu'on souvent on l'a même plus dans les mains, et ça sera un petit peu le défi d'aujourd'hui. Et puis de se retrouver là devant des gens qui veulent comprendre, lire, même des gens qui savent même pas beaucoup lire. Il y en avait de ces femmes qui avaient de la peine à lire, qui avaient besoin des autres. Et pourtant, il y avait quelque chose d'inspirant dans cela. Sur la photo qui va suivre. C'était il y a quelques semaines, j'ai travaillé avec un groupe de migrants. Dans ces gens que vous voyez, on a pris une photo un peu de derrière pour garder leur protection, dans le sens qu'il y en a beaucoup qui sont des chrétiens persécutés, qui sont venus en Suisse à cause de la persécution. D'autres ont trouvé la foi, ont trouvé Jésus sur le chemin de l'exil. Et puis il y en avait un parmi toute cette équipe qui s'est converti ici en Suisse, grâce à simplement un chrétien qui l'a accueilli chez eux, qui lui a ouvert une chambre. Et puis, ils l'ont accueilli dans leur famille. Et ce jeune a vu simplement cet amour qui transpirait d'eux, mais malgré qu'il faisait au départ un peu on dit ça, des âneries, hein, mais voilà qu'il était aimé. Il y avait quelque chose qui jaillissait de ce couple, de cette famille envers lui. Et chez ces chrétiens persécutés, c'est intéressant d'être avec eux parce qu'on ne peut pas partager quelque chose sans venir à ça. C'est des gens pour qui la parole, elle est tellement précieuse, elle les a soutenus, elle les a aidés, elle les a fortifiés, elle les a réconfortés dans des situations incroyables. La plupart, ils ont même de la peine à se partager entre eux leurs histoires, tellement c'est difficile. Et puis ils pensent qu'ils sont les seuls qui ont vécu ça. Puis en fait, ils ne sont pas les seuls parce que quand ils prennent le courage, ou qu'il y en a en tout cas un qui prend le courage de partager, tout à coup, l'autre, il y en a une de ce groupe qui disait, mais toi aussi. et ça l'a aidé à elle partager son vécu, partager son histoire. Cette faim, cette soif, non seulement de la parole, mais de Jésus, du Père, de cette relation avec Dieu. Et puis encore une autre femme avec laquelle j'ai travaillé sur plusieurs années, qui elle travaille dans l'humanitaire, mais me disait, c'est incroyable ces défis qu'on a d'être intègre face à cette parole. Je la connais, mais d'être intègre dans ma foi, d'être intègre face à Dieu, que ce soit dans des demandes de rançon, lorsqu'il y en a, que ce soit lorsqu'il y a des gens qui sont contre eux, qui sont vraiment pas sympas, pas gentils, qui sont d'accord, méchants, qui veulent leur peau, qui, etc. Et puis, malgré cela, elle dit, mais voilà, je connais cette parole, mais comment rester intègre à cette parole ? Et j'aimerais lire avec vous quelques passages, un qu'on connaît très très bien dans, qu'est-ce que j'ai marqué ? Dans le psaume 1, c'est juste cette parole qui parle de l'homme qui est heureux. Et on parle souvent d'être heureux par plein de choses, hein, c'est surtout quand on a du matériel dans nos mains. Heureux l'homme, alors je vais sauter directement au verset, l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, l'homme qui trouve son plaisir dans la parole, l'homme qui trouve son plaisir là, parce que lui et qu'il la médite jour et nuit. C'est extraordinaire, hein, de méditer cette parole jour et nuit, puis on se dit, mais comment est-ce qu'on fait? On doit travailler, on a machin, etc., etc. Et vous verrez que j'aimerais venir à quelque chose en fin de ce message. Ce sera un message assez court, hein, donc voilà. Mais j'aimerais surtout baser un petit peu ce partage, parce que sur la parole, on peut dire beaucoup, beaucoup de choses. J'ai juste pris trois points dans le psaume 119, qui est un psaume qui est assez long, on va pas le lire, mais j'aimerais revenir sur trois caractéristiques dans ce psaume qui sont des caractéristiques essentielles, des caractéristiques que j'ai vues aussi chez ces chrétiens et quelque chose qui m'a inspiré, qui m'a interpellé aussi. Tout d'abord, comme le psalmiste, on peut se fier à la parole de Dieu parce que la parole, elle est vraie, elle est vérité. On l'a chanté ce matin aussi. Et vous verrez que les chants que Corinne a choisis, ça va vraiment bien ensemble avec tout ça. On peut faire confiance à cette parole. Est-ce qu'on fait confiance et est-ce qu'on croit que c'est la vérité? Alors c'est facile à dire, parce qu'on y voit beaucoup de contradictions, on y voit des choses qui nous semblent assez difficiles, on y voit des choses qu'on ne comprend peut-être pas. Et pourtant là-dedans, c'est la vérité parce qu'elle est déclarée comme ça. Parce que Dieu est vérité. Et le psalmiste, dans ce psaume, dit au verset 42, « Je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. » Et là-dedans, il y a toute cette vérité qui est là. Et je ne sais pas comment vous êtes. Je me suis pris ces derniers mois à passer pas mal de temps là-dessus. Alors, il n'y a pas que le petit, hein, il y a aussi un petit peu plus grand, quoi. Mais... Et puis, là-dedans, à aller sur Internet, à lire les nouvelles, à lire plein de trucs, en fait. Même à chercher des réponses à des questions. Alors, je ne dis pas que c'est tout mauvais, d'accord? Mais j'ai remarqué que sur Internet, c'est très limité à qu'est-ce qu'on peut faire confiance dans ce qu'on lit et dans ce qu'on ne lit pas. Difficile. Peut-être, et pourtant, Dieu déclare sa parole comme vérité. Avec cette source extérieure, avec ce témoignage de Dieu sur sa parole, et comment est-ce que nous, on utilise cette parole? Comment est-ce qu'on la voit? Comment est-ce qu'on la lit? Comment est-ce qu'on la reçoit? Comment est-ce qu'on interacte avec? Et c'est une chose... Spécialement chez ces migrants et chez cette femme qui travaillait dans ces questions d'intégrité dans sa vie, que j'ai remarqué, c'est qu'ils prennent la parole pour la parole. Oui, ils posent des questions, oui, mais ils prennent ça pour la parole et ils vont la rechercher et ils vont passer ce temps avec Dieu là-dedans. C'est une parole qui ne change pas, C'est une parole qui n'a pas de limite dans sa... Je vais vous lire les versets quand même, hein, parce que, pas que je vous dise n'importe quoi là. Hein. Elle ne change pas. Il n'y a pas de limite à sa perfection. C'est le verset 96. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont pas de limite. Elle est là. Toutes les règles de justes de Dieu sont éternelles. Au verset 160, il faut tourner les pages là, hein, ce psaume, de temps en temps. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Et je ne sais pas comment vous réagissez, ça sera le prochain point. La parole de Dieu est juste. Elle est justice. Quand elle parle, il y a une justice qui est faite. Et je ne sais pas si vous avez de la peine des fois quand vous lisez votre parole face à la justice de Dieu. Est-ce que vous la comprenez? Parce que c'est compliqué, hein, de la comprendre. C'est compliqué parce qu'elle dérange, parce qu'il y a quand même des fois où c'est que Dieu met des limites. Il y a des fois où il va juger. Il y a eu un jugement à la croix terrible que Jésus a pris sur lui. Mais il y a un jugement, le jour du jugement qui vient. Cette parole, elle est justice. Elle va demander quelque chose de juste. Et dans Jean 17, verset 17, par rapport à la vérité, il est dit « Ta parole est vérité ». Et quelque part, pour moi, j'ai été interpellé, inspiré aussi par ces chrétiens à revenir à ça. Quand je suis avec eux, j'ai l'impression que je ne connais pas ma parole. C'est incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Ils ont une connaissance de la parole de Dieu, c'est juste fou. Et j'étais en contact avec quelqu'un qui travaille en Chine, et qui avait amené des Bibles en Chine, et un des leaders, ils n'avaient pas assez de Bibles pour tout le monde, et il dit, moi j'ai pas besoin de ça. Et ils ont demandé, pourquoi? Et il a dit, moi je prends juste des petites portions, et je les apprends par cœur. Et il savait, je ne veux pas dire tout le Nouveau Testament, je ne me rappelle plus juste ce qu'il avait dit, je ne veux pas raconter des âneries, mais il savait une bonne partie de la Bible par cœur. C'était juste incroyable. Parce qu'il a dit, ça c'est la première chose qu'ils prennent. Et ce qui est là-dedans, ils ne peuvent pas nous le prendre. Et il faut une motivation, hein, pour apprendre tout ça par cœur. Moi, j'essaye de retenir de temps en temps un verset, et j'ai pas mal de la peine. Hein. La parole de Dieu demande ce qui est juste. Le psalmiste reconnaît volontiers le droit de Dieu de donner des commandements et accepte aussi que ces commandements sont bons et sont justes. Ou bien est-ce qu'on est tout le temps dans la rébellion à remettre en question ses commandements? Je sais, au verset 75, « Je sais, Seigneur, que tes règles, que tes commandements sont justes. » Au verset 86, il nous dit « Tous tes commandements ne sont que fidélité. » Waouh! Sa fidélité, sa justice qui vient là-dedans. Tous ses préceptes sont justes et nous apportent cette justice. Et au lieu de voir peut-être le côté négatif de la justice, même s'il y a une réalité qui est là, qu'on doit voir, est-ce que dans les commandements de Dieu, au lieu d'en voir une série de règles, de « il faut pas », est-ce qu'on peut commencer de lire la parole pour voir dans les commandements de Dieu sa bonté et sa droiture? Et ça, c'est un petit peu mon défi. De relire la parole, de relire ses commandements, pas pour y voir des lois qu'il faut suivre, devenir légaliste, mais pour découvrir la justice et la bonté de Dieu dans ses commandements. Et il y a des perles, je crois, à prendre là-dedans. Et toutes ces personnes que je vous ai mentionnées avant, c'est des gens qui pensent et qui croient profondément que la parole est justice. Même qu'ils ont vécu des injustices incroyables. Ils se basent là-dessus. Et ils vont vivre, même face à leur bourreau, très souvent, cette justice de Dieu. Continuer d'aimer. C'est difficile, c'est pas simple, mais c'est quelque chose que j'ai entendu de manière régulière de leur part. Ils se remettent à Christ pour cette justice qui devient la leur, mais ça leur permet, comme Christ qui aimait ses ennemis, d'aimer aussi ses ennemis, leurs ennemis. Et cette parole de Dieu, elle est aussi bonté, elle est bonne. Au verset 1 et 2, si on commence tout au début, il dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur, qui marchent dans ses voies, qui observent ses commandements. » Et là-dedans, il y a un bonheur extraordinaire, mais qui est rattaché à pas seulement écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Et ça, c'est peut-être là que des fois le bas, il blesse. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais comment est-ce qu'on le pratique? Et pourtant, il nous dit, cette parole, elle est là pour ta bonté. Elle n'est pas là pour t'écraser, elle n'est pas là pour te limiter. Elle est là pour te donner de l'espace et de la joie, du bonheur. Elle est là aussi, cette parole, pour éviter la honte. Au verset 6, il nous dit, « Alors, quand je marche ainsi, quand j'observe avec soin cette parole, tes statuts, tes commandements, alors je ne rougirai pas à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. » Et quelque part, cette parole, il y a une bonté de Dieu hein, là-dedans. Il nous la donne, on la pratique et on peut éviter la honte devant lui. C'est une voie pour la sécurité aussi, une voie du bon conseil, une parole qui donne force. Espérance. Au verset 43, il parle de cette espérance quand il dit « J'espère en tes jugements ». Ça, il est dans le contexte en fait de gens qui l'outragent, de gens qui lui font du mal. Il dit « Mais voilà, je fais confiance, ça me donne une espérance pour le futur, une espérance dans ma vie maintenant. » Et toute cette parole, elle est l'histoire de Dieu, elle est cette révélation aussi, elle est cette parole de vérité pour nous. Mais il y a une chose que dans tous ces chrétiens que j'ai rencontrés, c'est que pour eux, la parole, ce n'est pas juste des traces noires sur une page de papier. Ils ont rencontré la parole. Cette parole dont il nous a dit qu'elle existait avec Dieu, qu'elle était Dieu, et qu'elle s'est faite chair, qu'elle a habité parmi nous. Ça, c'est tout dans Jean 1. Et dans Galates 3, il a dit qu'elle habite en nous dans toute sa plénitude. Et pour eux, la parole, ce n'est pas juste des mots sur une page de papier. C'est Christ lui-même. Et dans cette faim, cette soif pour cette parole, c'est une faim, une soif de connaître ce Jésus, de le rencontrer, de passer du temps avec lui, de l'écouter, d'être en relation avec lui, de parler, de lui répondre, de lui redonner ses paroles, de le questionner. Mais là-dedans, de se dire qu'elle existait déjà avec Dieu, qu'elle était Dieu, qu'elle s'est faite chair, qu'elle a habité parmi nous, et si ce n'était pas encore assez, il habite en nous dans toute sa plénitude. Et pour moi, là, ça part tout à coup dans une autre dimension. Et c'est une chose chez ces chrétiens qui m'encourage, qui m'inspire beaucoup, c'est de voir cette parole, de la faire mienne, comme si c'est Christ lui-même qui me parle, qui m'interpelle, qui m'encourage, qui me remet en question, qui m'éduque, qui me corrige, parfois qui doit me convaincre, qui va me former afin qu'on puisse grandir dans ce qu'on est déjà maintenant en lui et l'exprimer de plus en plus. Alors j'aimerais terminer cette courte réflexion sur la parole de Dieu avec cette question. Est-ce que tu t'es déjà demandé ou posé la question? Ça, c'est, j'ai oublié de passer. Qu'est-ce qui se passerait si on traitait la Bible de la même manière qu'on traite notre Natel? Je vous ai déjà posé cette question. Alors, que se passerait-il si nous portions cette parole de Dieu toujours dans nos poches ou dans nos sacs. Et non seulement tu l'as toujours dans ton sac ou dans ta poche, mais que tu la consultes régulièrement, plusieurs fois par jour. Et peut-être que tu as aussi un petit truc comme moi j'ai qui me dit chaque semaine, vous savez, Cyril est super intelligent, d'accord ? Non, pas d'où est-ce que tu as oublié de lire la Bible, mais combien de temps tu passes sur ce truc par semaine ? Et chaque semaine, ça te dit, tu étais 20% de plus, 15% de moins, machin truc, tu as passé tant d'heures. D'accord ? Vous imaginez ? Que puis-je faire pour toi ? Vous imaginez ? Si on passait autant de temps qu'on est là-dessus, là-dedans. Ah. Que se passerait-il si, quand on l'oublie, on retournait à la maison pour la chercher? Que se passerait-il si on l'utilisait pour recevoir des messages? Parce qu'on l'utilise pour ça, mais aussi pour en donner, pour communiquer. Que se passerait-il si on la traitait comme si on ne pouvait pas vivre sans? Vous savez, ils font ces petits trucs avec les jeunes, et puis des moins jeunes aussi, mais surtout avec les jeunes. Ils les prennent sans connexion, sans attel, sans rien, pour puis ils voient combien de temps ils arrivent à gérer et à survivre sans être connectés. C'est court, hein? C'est super court. Et c'est comme, pour beaucoup, beaucoup de gens, le natel, c'est comme si on ne peut pas s'en passer, si on ne peut pas vivre sans. Qu'est-ce qui se passerait si on traiter nos Bibles de cette manière? Si nos enfants peut-être la recevaient en cadeau? Si on l'utilisait lors de nos déplacements ou en cas d'urgence? Si on l'utilisait comme la lampe torche chaque fois qu'on a besoin de lumière sur notre chemin? Ça, c'est le psaume 119 aussi, hein? Une lampe sur mon chemin. Alors, ces quelques pensées devraient te mettre en marche. En marche. Mais en fait, elle est où ta Bible? Et puis, il y a une chose que je veux finir avec. À la différence de notre natel, on n'a pas à se soucier que notre Bible soit déconnectée. Parce que Jésus a déjà payé la facture. La connexion sera toujours là. Et en plus, pas d'appel rejeté. Parce qu'il est toujours là pour répondre. Alors, laissons-nous inspirer. Laissons-nous peut-être interpeller. Où sont nos priorités? Je sais que la Bible, elle est aussi là-dessus. Mon défi que j'ai reçu pendant les vacances, c'est de relire la parole juste avec la parole. Et de laisser Dieu me parler par sa parole et non par les 56 000 personnes qui commentent la parole de Dieu. Et ça, c'est un défi que j'ai moi. Ça n'a pas besoin d'être le vôtre, il va vous donner le vôtre. Et en parlant de la parole de Dieu, on va donner la parole à Diego, qui va nous parler de cette parole, qui distribue, parce qu'il croit aussi que c'est une parole de révélation, c'est une parole de vie, c'est une parole de salut. Et on se réjouit de t'entendre.
Merci beaucoup. J'aurai plusieurs réponses, Christian. Et peut-être qu'elles viendront pendant ce que je vais vous témoigner. J'en parlerai après, quelques minutes. Non, vous ne distribuerez pas de Nouveau Testament. Nous sommes à Clermont-Ferrand, autour d'un lycée technique. C'est le territoire de l'école ici. J'appelle la police, vous n'avez rien à faire ici. Vous ne distribuerez pas de Nouveau Testament. Bien. Effectivement, la police arrive, police municipale. Et vous êtes... Nous sommes rejetés loin du périmètre scolaire, sur la route. Et là, nous attendons et nous voyons 400, 500 élèves partir, monter dans des bus, parce qu'il y a juste les bus qui arrivent, comme chez nous à Bois-Caran, devant le collège technique. Quelque part, on vient de chercher. Trentaine d'élèves passent par la route. Nous leur donnons ce que nous pouvons, ou ce qu'ils acceptent. Et puis... au moment où on va plier bagages, J'ai dit non. Le surveillant qui avait prononcé ces paroles, qui avait appelé la police, était rentré dans le lycée. Il y avait une trentaine de jeunes qui étaient là. J'ai dit, moi, j'ai pas fait 300 km depuis Genève pour aller à Clermont-Ferrand et ne rien faire. Alors, j'ai pris mon sac, dans lequel il y avait les Nouveaux Testaments. Et puis, je suis allé les voir. Il y avait une trentaine qui étaient assis, en train de discuter, en train de fumer. La première, je suis catholique. La deuxième, non merci. La troisième, non merci. La quatrième, cinquième, sixième. Et là, pour moi, c'est les cas désespérés. Un jeune couple était en train de fumer, l'un en face de l'autre. Ils m'ont poliment dit non. Je leur ai présenté la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Et j'ai continué, j'en ai donné deux ou trois. Et tout d'un coup, au moment où je retourne, sur le passage à piéton, il y a le jeune couple qui vient. « Monsieur, on peut vous parler ?» J'ai dit « Oui, bien sûr. Vous savez, on a senti quelque chose quand vous êtes venu près de nous. On aimerait vous parler, on aimerait vous parler de quelque chose de peu spécial. » J'ai dit « Oui, bien sûr, volontiers. » On a juste quitté le passage pour piéton. Ils m'ont dit « Vous savez, depuis qu'on s'est mis ensemble, j'ai l'impression, le jeune homme a dit, j'ai l'impression d'avoir des démons, des choses comme ça. » J'ai dit « Ça ne m'étonne pas. » Enfin, dans moi, pas, je ne leur ai pas dit ça. Parce que j'étais habité peut-être par les mêmes démons à une époque, avant que je devienne chrétien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a prié ensemble. Je leur ai montré le plan du salut. Dieu vous aime. On l'a lu ensemble. J'ai tendu mon stylo. Le jeune homme a signé. La jeune fille a signé. Et je les ai remis dans les mains du Seigneur. On a prié ensemble. On était les trois comme ça. J'ai vraiment prié pour qu'ils soient libérés. Voilà ce que fait un Nouveau Testament. Le 24 décembre 2014 ou 2015, je ne me rappelle plus, ou 2016, peu importe. Je vais sortir de mon bureau et j'ouvre la porte, surprise. Une dame était venue me voir, je la connais, elle vient faire ses déclarations d'impôt chaque année. Elle m'a dit, tu sais Diego, je peux te voir 5 minutes? J'aimerais te dire quelque chose. Et je dis, oui, bien sûr, rentre. Je l'ai pris quelques minutes. Elle m'a dit, tu sais, il faut que je te dise. J'ai dit oui à la lumière. Je viens de te dire merci parce que tu m'as donné un jour un Nouveau Testament. Je lui avais montré le plan du salut. Je lui avais expliqué. Elle m'a dit, merci Seigneur. Enfin, moi je dis merci Seigneur, mais elle m'a dit, merci Diego. Elle m'a apporté une jolie carte en remerciant, en souhaitant un joyeux Noël, joyeux Noël pour moi et mes enfants. Elle m'a apporté une bougie. Puis elle m'a, il y avait un petit cadeau. Et puis, on a partagé la parole, pas seulement la parole, mais on a aussi partagé la joie de Noël, la joie du Christ ressuscité. Et je m'étais dit, j'allais regarder le petit cadeau, j'allais l'ouvrir plus tard. Il y avait un autre monsieur qui était aussi arrivé en même temps. Je l'avais fait patienter à la salle d'attente. On l'a pris ensemble. Elle est partie. J'ai servi l'autre monsieur. Et avant de quitter mon bureau, j'ai ouvert le petit paquet. Et le petit paquet, le seul mot qui était marqué dessus, renaissance. C'est tout. J'ai jamais vu un autre mot. Il n'y a pas de fabrique. Il n'y avait rien. Renaissance. Merci Seigneur. Cette femme est d'origine pakistanaise. Elle m'a demandé de jamais divulguer son nom parce que ça peut avoir des problèmes dans sa famille. Chaque année, elle vient me témoigner de ce que fait Dieu. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais elle me dit, je vois toutes les années, vraiment, c'est un miracle. Je ne sais pas comment ils arrivent à vivre, mais ils n'ont pas le revenu minimum. Voilà, je le sais, je fais leur déclaration. Et elle me témoigne chaque année de son amour. Elle m'a même maintenant envoyé son fils et j'espère bien pouvoir lui en donner un. J'en ai dans mon bureau de Nouveau Testament en ourdou, parce qu'il a appris le ourdou avec sa famille, ou l'anglais, mais il parle très bien le français parce qu'il a été scolarisé chez nous, et nous avons commencé à étudier la parole de Dieu ensemble. Est-ce que vous acceptez que je prie pour vous? John D'Acrona est en face d'un pasteur, il lui dit oui, mais je te tuerai après. Le Le pasteur lui cite « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien, mais je te remets cet homme qui, devant moi, te cherche. » John Dacrona était un jeune tireur d'élite en Angola. C'est un homme qui a grimpé dans la hiérarchie, qui est juste jusqu'à devenir colonel, et son boulot était de tirer et de tuer tout ce qui était de plus ou de près ou de loin chrétien et d'autres personnes désignées par le gouvernement dans la Ligue marxiste, quand c'était l'UNIFELA, je ne sais plus comment ça s'appelait, pendant la guerre en Angola. 20 ans plus tard, alors que la paix est un peu revenue en Angola, il est un soir rentré dans une église, et ce soir-là, le pasteur était en train de lire « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. » Cet homme s'est mis à genoux et a accepté ce soir-là son Seigneur, notre Seigneur. Il est devenu général, et grâce à lui, les Gédéons ont pu ouvrir je ne sais pas combien de camps en Angola, et ont pu remettre un Nouveau Testament à tous les soldats de l'armée angolaise. Ce général Dacrona est mort, mais vous pourrez trouver sur Internet son témoignage qu'il a lui-même écrit et divulgué sur Internet. Il est devenu un membre des Gédéons. Voilà ce que fait la parole de Dieu, même 20 ans après. Pendant que j'y suis, j'ai reçu un Nouveau Testament, un petit bleu comme ça, alors que j'avais 16 ou 17 ans sur les bancs de l'école de Saint-Maurice, collège catholique en Valais. Il y avait un Gédéon qui était venu. Et je me suis rappelé qu'un de mes camarades avait posé « Mais pourquoi vous faites ça ? Qui vous êtes ?» enfin. Et lui, il avait répondu « Nous sommes des professionnels chrétiens, je suis un professionnel chrétien, et nous distribuons la parole de Jésus-Christ. » Ça ne m'avait pas tout à fait satisfait. Je ne suis pas devenu chrétien à ce moment-là, je vous le dis franchement. Même si j'allais à la messe, même si je suivais, j'essayais d'être... bon catholique, on va le dire comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager la parole de Dieu. Révélée à travers, et son amour révélé à travers ce petit livre. Qui sommes-nous, les Gédéons ? Nous ne sommes ni une église, ni une secte, mais nous sommes un corps de croyants chrétiens, engagés pour que la parole de Dieu soit accessible et donnée à tous. Partout et en tout lieu, avec le soutien des églises, avec votre soutien, pour amener des âmes à Christ. Nous ne sommes pas des libraires, nous ne remplaçons pas la maison de la Bible, nous ne sommes pas non plus des instituts bibliques, nous sommes juste la prolongation, votre bras missionnaire, là où vous ne pouvez pas aller. Et nous sommes une association interdimensionnelle. Nous ne sommes pas nés d'une église. Le ministère a été fondé par 3 hommes aux États-Unis. L'histoire a débuté parce qu'un homme, un soir, est arrivé dans une chambre d'hôtel aux États-Unis et il n'y avait plus de place. Et l'hôtelier a proposé à l'homme, est-ce que ça vous dérange de partager votre chambre avec quelqu'un d'autre, un autre homme ? Et les deux étaient d'accord. Et avant de se coucher, l'homme qui était arrivé en dernier a dit « Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais avant de dormir, j'aimerais pouvoir lire la Bible. » Et l'autre homme qui était aussi chrétien a dit « Bien sûr. » Le premier homme avait promis, enfin sa mère lui avait fait promettre que tous les jours il lirait la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'a commencé le ministère. Ils se sont promis de se revoir, ils se sont posé la question « Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour le Seigneur ?» Un troisième homme est venu. Et aujourd'hui, nous sommes près de 300 000 hommes et femmes tout autour de la terre qui avons comme vocation de servir le Seigneur en distribuant la parole de Dieu dans les sphères suivantes. Ben, vous l'avez entendu d'abord à l'époque dans les écoles, mais de moins en moins, c'est surtout maintenant autour des écoles que nous le faisons, en tout cas à Genève. Nous distribuons des testaments dans les prisons. Nous distribuons dans les hôpitaux, les EMS, les cabinets médicaux, cabinets vétérinaires, aux forces de police, aux forces des pompiers, et nous les distribuons aussi à l'armée. Donc ici en Suisse, c'est dans les écoles de recrues que nous le faisons encore. Notre seul but, basé sur Ésaïe 55, 11, est de gagner des âmes à Jésus-Christ en semant la parole de Dieu. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Nous sommes chargés de semer la parole de Dieu, car comme il est écrit dans Romains 1, 16, l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Et c'est pour ça qu'ils croient, parce que c'est leur salut, c'est leur seul salut, et c'est le nôtre, c'est notre seul salut, c'est d'aimer et d'être aimé en Jésus-Christ, par sa parole. Vous pourrez lire, il y a plusieurs passages, je ne vais pas vous les citer aujourd'hui, mais vraiment c'est par ta parole dans la Bible, c'est, vous pourrez les souligner, par ta parole. Et c'est par sa parole que je suis en contact avec des dizaines, des centaines de personnes à Genève. Et j'ai jamais imaginé ça dans ma vie, que j'allais pouvoir rencontrer des hommes et des femmes de toute nationalité, de tout pays. Et même dans mon bureau, je détiens à peu près une quarantaine de Nouveaux Testaments, ou même des Nouveaux Testaments dans une quarantaine ou cinquantaine de langues. Je n'ai pas encore fait le calcul. Les langues européennes, mais aussi vietnamiennes, coréennes, chinoises. Oui. Urdu. Et j'ai même eu la chance, enfin, pour moi c'est une chance, enfin, une bénédiction, je devrais dire, de distribuer à deux personnes qui viennent de Perse, en persan. J'espère en donner une en ourdou. Franchement, c'est une bénédiction de pouvoir donner la parole dans la langue maternelle d'une personne. Alors, Dieu a fait encore plus grand. À travers notre ministère, nous avons, et vous allez pouvoir la télécharger, une application. Si, mais attendez, la révélation. 1320 langues, audio ou écrit. J'ai des clients qui viennent du Congo, de l'Angola, qui est l'état langue. Le Kikongo, magnifique, je regarde, Kikongo, ils ont téléchargé. Cette femme n'avait pas trouvé, elle me disait, j'aimerais bien avoir une Bible en Kikongo. Elle ne la trouve pas forcément ici, je sais qu'on peut en commander, mais ça n'existe pas. Enfin, voilà, tous les coins de rue. Je le lui ai donné. Un autre homme est arrivé, je ne sais plus, en Kingala. Voilà. Ok, en Kingala. Quand j'étais en Ouagadougou, pardon, Burkina Faso, il m'avait demandé si j'avais des Nouveaux Testaments dans une de leurs langues. J'ai dit non. Et l'année d'après, les Gédéons ont commencé à créer, c'était en 2015, justement cette application, Gideon App Bible. Et vous pouvez vous-même maintenant la télécharger, on vous donnera les codes QR. Et vous pourrez aussi la partager dans la langue des gens que vous rencontrez. C'est des fois surprenant, mais il y a même du vietnamien quand vous êtes parce que vous pouvez choisir par pays ou par langue, hein. Et quand vous êtes, j'ai regardé Côte d'Ivoire parce que j'ai dû donner dans une des langues de la Côte d'Ivoire. Et là, il y avait marqué vietnamien, bien sûr, il y a le français. Mais j'étais surpris que, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de Libanais, hein, en Côte d'Ivoire. Mais vous pourrez, vraiment, voilà ce que Dieu fait. Notre but, c'est de toucher toutes les personnes, tout autour de la terre. Vous savez que la parole de Dieu doit être prêchée jusque dans les îles lointaines pour que le Seigneur un jour revienne. Mais je me suis aussi posé la question, on m'a aussi révélé quelque chose. Pourquoi nous aurons tous un jour un iPhone ou un smartphone, appelez ça comme vous voulez, ou un Atel? Bon, le Atel, c'est un peu démodé. Hein. Alors moi aussi, j'étais un homme à touche avant. Excusez-moi, je suis passé avec la caresse. Mais... Parce qu'un jour, c'est marqué que dans la Bible, tous les hommes et toutes les femmes sur la terre le verront quand il reviendra. Comment c'est possible? Ben oui, il y a à peu près un siècle, la télévision a été inventée. Mais un jour, peut-être que nous serons tous sur notre smartphone en train de le voir arriver sur le mont des Oliviers, poser ses deux pieds. Voilà. Pardon ?
En direct.
Oui, en direct. Ben on a vu, pour ceux, voilà, on a vu Apollo, hein ? 1969, je suis de 62. Voilà. Pourquoi pas ? Hein, ma mère m'a réveillé, j'ai vu des images à la télé, je me suis rendu compte bien des années plus tard ce que ça pouvait représenter. Cours de maths, cours de physique, le nombre de kilomètres. Voilà, vous avez vu maintenant ce que font les Gédéons. Mais pas, on ne fait pas ça seulement dans les pays lointains, dans les pays d'Afrique, pas seulement au Portugal, en Amérique du Sud, pas seulement aux États-Unis. Nous le faisons ici à Genève, autour des cycles. Et de temps en temps, vous voyez de la pub dans le journal, le 20 minutes qui vous raconte que le scandale, les Gédéons, sectes américaines, ont encore frappé nos jeunes avec le risque de les dévoyer du droit chemin. Mais non, la parole de Dieu est droite. Nous donnons l'occasion. Je me rappelle, je ne sais plus qui m'a témoigné que la dernière fois, que j'étais, une des fois où j'étais venu au cycle des Colombières, cet homme avait dit qu'il avait demandé à sa fille de ne jamais prendre quelque chose qu'on lui donnerait, enfin de la parole, des écrits, etc. Puis sa maman, elle est rentrée à la maison et puis il a appris que c'était un Nouveau Testament qu'on distribuait. Il était là le dimanche, il en a pris un pour sa fille. Donc je ne vous demande pas d'interdire, hein, si vous avez des enfants, mais que vous leur dites que si c'est un petit bleu, je suis d'accord. Voilà, nous avons donné jusqu'à aujourd'hui plus que 2,6 milliards de Nouveaux Testaments et de Bibles placés dans les hôtels, placés main à la main. Il n'y a pas de facteur qui nous remplace, c'est pas possible. Nous sommes une armée d'hommes et de femmes qui sont levés pour donner la parole du Seigneur, pour témoigner, oui, pour témoigner. Vous savez, plusieurs fois dans ma vie, j'ai même fait ça avec monsieur du Kosovar. C'est marqué ici en haut, dans toutes les langues dans lesquelles c'est écrit, Dieu vous aime. Et cet homme, je lui ai laissé lire le plan du salut. Il a commencé à pleurer à Dieu vous aime. Un monsieur de passé 50 ans. J'étais un peu plus jeune que lui. Et il m'a dit, il a levé les yeux, puis il m'a dit, je peux vous l'acheter? Non. Ce livre ne peut pas être vendu. Il est donné. Nous avons reçu gratuitement, il est donné gratuitement. Et c'est nous, vous et moi, qui le payons pour que d'autres reçoivent gratuitement la parole de vie et la parole vive de Dieu. C'est marqué dans le dernier, l'Apocalypse, le dernier livre du Seigneur, c'est bien marqué ceci, que tous ceux qui ont soif, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Nous tendons ce Nouveau Testament aux élèves, aux prisonniers, aux malades. C'est eux qui le prennent. C'est pas nous le ferons, nous le tendons, mais c'est eux qui le prennent. Dans certains pays musulmans, bien sûr qu'on ne peut pas avoir un ministère Gédéon dans tous les pays, parce que certains sont fermés. Mais ça commence par la principauté du Liechtenstein, Monaco, vous comprendrez pourquoi, catholique ou riche. Mais ça continue avec beaucoup de pays musulmans, ne serait-ce que l'Arabie Saoudite, le Yémen, pas parce qu'ils sont en guerre, hein, parce qu'ils ne l'ont pas accepté. Mais certains pays comme Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, pour différentes raisons, je viens d'apprendre un témoignage, qu'il y avait un des émirs, mais je ne sais plus de quel pays, à sa femme avait des problèmes à l'accouchement, pour accoucher. Il a fait venir les médecins, etc. Mais ils ont posé la question, mais faites quelque chose, elle allait mourir, perdre son bébé, ou je ne sais plus quoi. Et ils ont dit, vous avez quelqu'un? Oui, on a quelqu'un, mais elle est chrétienne, elle ne peut pas toucher votre femme. Il a dit, faites-la venir. Elle est venue, le bébé est né, Dieu merci. Et en remerciement, l'émir lui a posé la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle a dit, vous savez, nous, pour prier Dieu, pour nous réunir pour Dieu, on se retrouve sous des arbres, et là-bas il fait 40, 50 degrés, etc. Et il a dit, nous, ce qu'on aurait besoin, c'est un terrain où nous pouvons nous réunir pour louer le Seigneur, pour être avec notre Dieu. Et il a donné un terrain, ils ont fait construire une église, il a dit, je vous donnerai à vie, gratuitement, l'eau et l'électricité. C'est à vous. C'était son signe de reconnaissance, de gratitude, sa manière de remercier la vie de son fils ou de son enfant. Vous savez que c'est déjà arrivé dans l'histoire, dans l'Ancien Testament. Et Aujourd'hui, mes frères Gédéon peuvent distribuer gratuitement. Et quand, dans un pays musulman, vous n'avez vraiment même pas le droit de la donner, parce que là, c'est du prosélytisme, et vous êtes accusé de mort. Enfin, vous êtes condamné à mort. La seule chose qui doit le faire, c'est de poser le Nouveau Testament là. Et si l'autre le prend, c'est sa responsabilité. Vous êtes arrivé en distribuant autour d'une école, en France aussi. Des jeunes avaient jeté, pouf, allez. Puis il y a, je vois tout d'un coup, trois enfants qui viennent. Ils en avaient chacun un dans la main. Ils ont jeté, on a trouvé, mais est-ce que vous pouvez en donner un troisième ils nous présentaient leur ami, là. Écoutez, il avait moins de 10 ans, ou quelque chose comme ça. Je n'osais pas le faire parce que il y avait des témoins, il y avait beaucoup de gens. C'est pas que j'avais peur des témoins, mais bon, on n'a pas le droit de... Enfin, je veux dire, là, moins de 12 ans, c'est un peu difficile. Je lui ai dit, écoute, je te laisse tomber par terre, et si tu veux le prendre, tu le ramasses. Je vous assure qu'ils sont partis tous les trois, très, très, très heureux. On distribuait autour du cycle des Voirets, à Genève. Le dimanche d'après, nous avions une présentation des Gédéons dans l'église de l'Espérance. Et puis à la fin de la présentation, il y a une dame qui vient en chaise roulante et elle me dit, voilà, j'aimerais vous témoigner de quelque chose. Mercredi passé, j'avais été avec mon fils et mon petit-fils. Nous sommes allés, je devais passer à l'UBS pour aller chercher de l'argent. J'ai envoyé mon petit-fils prendre de l'argent dans le bancomat et moi j'avais prié pour que mon petit-fils reçoive la parole de Dieu. Et là, donc, le cycle des Voirets, l'UBS appelant les Watts, il y a un petit chemin qui monte. Et là, quand il va chercher l'argent pour sa grand-maman, il trouve un Nouveau Testament qu'un des élèves avait posé. Et il me témoigne. Et puis, quand il est remonté dans la voiture, « Grand-maman, est-ce que la Bible des Gédéons, est-ce que c'est autorisé ?» Voilà. La réponse de Dieu à une prière. Manure, je pourrais encore vous raconter et témoigner bien, bien des choses autour de la terre. Mais j'aimerais vous dire quelque chose encore de personnel. Vous savez que les besoins sont immenses. Dieu notre Sauveur, lui qui désire, en Timothée 2, 4, il nous dit, « Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Si l'accès à la parole est relativement facile chez nous, ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. En tout cas, pas pour ceux qui n'ont pas accès à Internet ou à des librairies ou carrément pas accès à la Bible. Alors, bien sûr, Dieu nous a donné. Je ne peux pas voir autrement que la main du Seigneur, notre Seigneur Christ, qui m'a mis dans cette responsabilité de la distribuer, de vous en témoigner. Mais moi, je n'ai jamais imaginé pouvoir être tout seul, commander des milliers de Bibles pour la distribuer en 1320 langues, plus que 50 dans mon bureau, la donner à tous mes clients. Est-ce que vous avez... Moi, je n'ai jamais imaginé ça quand j'ai dit oui un jour. Cette jeune fille, c'est grâce à vous qu'elle en recevra un jour, ou que sa sœur ou sa petite sœur ailleurs dans le monde la recevra. Comment vous pouvez nous aider? Pour prolonger la mission missionnaire de votre église à Genève et dans 200 pays, j'aimerais d'abord que vous demandiez de prier pour nous. Priez parce que grâce à vos prières, le ministère peut s'étendre à toute la terre et à toutes les âmes. Et puis aujourd'hui, Jésus recrute des ouvriers et leur épouse pour sa moisson. Joignez-vous à nous dans le ministère en devenant Gédéon avec votre épouse. Vous êtes chrétien et homme d'affaires ou cadre ou enseignant ou profession libérale. Vous assumez des responsabilités dans votre profession. Viens servir le Seigneur et deviens son porte-parole auprès de ton prochain. Ce Nouveau Testament a été porté jusqu'à l'étudiant, au prisonnier, à la recrue, au malade. Et comme je vous l'ai dit, aucun facteur ne peut nous remplacer. Alors nous vous attendons avec votre épouse pour servir le Seigneur. Vous suivrez une formation pour devenir Gédéon et pour partager la bonne nouvelle du royaume et le salut à toute femme et à tout homme que vous rencontrerez. Si vous n'êtes pas appelé, vous pouvez devenir des amis ou des amis des Gédéons. Et vous recevrez deux fois par année, par courriel ou par courrier, des nouvelles du ministère. Et puis, votre ancien pasteur m'a témoigné que vous voyez de moins en moins de Nouveaux Testaments dans les hôtels. C'est vrai qu'en France, une statistique nous a donné qu'il y avait plus que 5% des hôtels qui acceptaient des fois les Bibles. Et pourtant, les Bibles placées dans les chambres ont sauvé bien des vies. Et bien des fois, elles ont été un repère pour quelqu'un. Et quand vous avez même un chrétien qui l'avait oublié, parce qu'en Josué, il nous est dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. N'aie pas peur, je serai avec toi où que tu ailles. » C'est le premier verset qu'on m'a souligné en jaune, les deux premiers versets qu'on m'a souligné en jaune quand on m'a donné la nouvelle Bible quand je suis arrivé dans une église. Alors, ça a porté du fruit. Vous pouvez donc demander, quand vous n'avez pas de Bible dans une chambre, demandez à l'hôtelier une Bible. Et s'il ne veut pas, vous dites, peut-être que le confort était bon, mais je n'avais pas de réconfort pour mon âme. Vous êtes, parce que vous ne savez pas si la semaine d'après, des Gédéons vont passer, et l'hôtelier va dire, ok, nous prions pour que les portes s'ouvrent. Nous prions pour que des hôtels, même ici à Genève, des fois pendant 2-3 tournées, ils ont dit non, et tout d'un coup ils ont dit oui. Parce que quelqu'un l'a demandé. Ah mais il n'y a personne. Vous êtes des chrétiens. Faites-le savoir. Vous voulez une Bible. C'est la présence du Seigneur dans votre chambre. Et pendant votre sommeil, même s'il est avec nous, tous les jours. Vous pouvez aussi prendre des cartes, ce qu'on appelle des cartes de jubilé, des cartes qui marquent les grands événements de la vie, comme lors d'un anniversaire, d'un mariage, d'une naissance, d'un décès ou simplement pour remercier. Et vous pouvez acheter avec ça des Bibles commémoratives. Quand vous achetez la carte, vous avez un bulletin de versement, vous pouvez aussi mettre une offrande dans la cruche des Gédéons. Et puis, vous pouvez donner 10 francs avec un bulletin de versement, faisant savoir... Au lieu de t'offrir grand-maman pour la xème fois un foulard qu'elle ne mettra pas forcément, ou je ne sais pas quoi, j'ai offert en ton nom 10 nouveaux testaments pour que d'autres personnes connaissent ta parole. Enfin, pas la sienne de la grand-mère, mais la parole du Seigneur. Voilà. Chaque cadeau, même modeste, est bienvenu. Un nouveau testament coûte environ 1,50 franc. Donné. Un grand testament, ici nous posons dans les hôtels, les quadrilingues. Et puis nous avons aussi pour les grands-mamans, dans les EMS et ailleurs, nous avons des plus grands caractères. Bien sûr, nous n'avons pas The Big Bible. Mais, parce qu'on m'a même dit que c'était un peu petit, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Puis après ça devient lourd et à transporter et même à ouvrir. Mais par votre don, vous financez des nouveaux testaments qui seront donnés gratuitement à une âme qui l'attend. Nous vous en sommes reconnaissants avec tous ceux qui ont reçu ou qui recevront le livre de vie et du salut. À la sortie du culte, la cruche des Gédéons attend votre don que vous pouvez également faire et effectuer par virement bancaire. Nous avons des BVR pour cela. Vous pouvez également un jour faire un legs sur votre testament à l'Association internationale suisse des Gédéons. Grâce à votre don, nous continuerons à servir le Seigneur. Sachez aussi que votre don est utilisé à 100% pour les Nouveaux Testaments. Les Gédéons financent eux-mêmes leurs frais de transport, pas les frais de transport des Nouveaux Testaments, mais leurs frais de transport pour les distribuer. C'est notre contribution, en plus de notre générosité dans le ministère, mais c'est notre contribution. Nous assumons tous les frais de bureau et de transport personnel. Avec Erwin et Marc Rousse, nous serons à votre disposition après le culte pour vous répondre à vos questions, vous rencontrer personnellement. Mais auparavant, je tiens à remercier chaleureusement toute l'Assemblée, toute l'Église, que ce soit Christian Cartier et votre pasteur Yann Roulet, de nous avoir invités et nous laisser l'occasion de témoigner de l'amour de Jésus-Christ dans ce ministère, à Genève et dans le monde entier. Et j'espère un jour, chers amis, chers frères et sœurs, de vous revoir. Je prie maintenant que la grâce du Seigneur, l'amour de Jésus-Christ et l'amour de notre Dieu soient avec vous. Amen.